tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, d'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV! Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratuits! Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
2020 arrive et Chiz 94.3 renouvelle sa programmation. Chiz est à la recherche de gens passionnés qui ont le goût de partager leurs désirs, leurs intérêts et leurs passions en ondes sur l'ensemble du territoire de la ville de Québec. Pour soumettre un projet, rendez-vous sur le chiz.ca sous l'onglet « Impliquez-vous » et remplissez le formulaire prévu à cet effet. On prend les projets jusqu'au 19 janvier prochain. Dépêche-toi! C'est premier arrivé, premier servi.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Plonge tes oreilles dans la culture d'ici! Écoute local! Écoute Chiz 94.3! Au Griendel, on t'offre un super quiz Chiz spécial chanson de Noël. Oh, attends, il me semble que j'ai fait drette ça l'an passé. OK. Foxa, j'ai une meilleure idée. Le 22 décembre, Chiz t'invite à un super quiz Chiz de fin d'année. Comme le bye-bye, mais pas de sketch, pas de faux maquillage, ni de controverses. Juste de la musique et des événements musicaux parus dans les 12 derniers mois. Ben, venez chanter ça avec nous le dimanche 22 décembre prochain à 19h30 au Griendel. On s'y voit pour le dernier Super Quiz Chiz de l'année 2019.
Tout le monde, bienvenue à Question de savoir, l'émission hebdomadaire de l'Allier. Justement, l'Allier, c'est votre association des étudiants et étudiantes au cycle supérieur à l'Université Laval. Mon nom est Jérôme Lizotte, je suis attaché à l'exécutif, donc je fais pas mal tout. Attaché à l'exécutif, grosso modo, vous n'avez pas besoin de s'en savoir plus, c'est pas mal ça. Je suis accompagné cette semaine, émission spéciale de fin d'année. J'ai été chercher des gens qui ont reçu, des chercheurs, des membres de l'Allier, en fait, qui ont reçu des bourses de leadership en développement durable de l'Université Laval. Donc, premièrement, à ma gauche, Pascal Marié-Deschaines. Bonjour, Pascal.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, Pascal, tu es au doctorat en sciences cliniques et biomédicales.
Oui.
Tu as reçu le prix leadership scientifique de la Fondation J.A. de Sèvres. Donc, félicitations en premier lieu.
Merci.
Et sur quoi porte ta thèse de doctorat plus spécifiquement?
En fait, moi, je m'intéresse beaucoup aux outils à l'intention des patients. Donc, mon projet de doctorat va consister à développer un programme d'autogestion de la douleur chronique à l'intention des gens qui sont en attente de services de deuxième ou troisième ligne. Donc, des gens qui vivent avec de la douleur chronique, qui ont rencontré leur médecin dans la plupart des cas, mais qui tombent dans un creux de service. Parce qu'après avoir rencontré leur médecin, bien, avant d'avoir d'autres services, ça peut être très, très long. Et donc, je vais développer le programme d'autogestion. Puis, par la suite, je vais réaliser un essai contrôlé randomisé avec ça pour déterminer si ça a un impact sur le fonctionnement des gens au quotidien de suivre un programme qui est en ligne, donc sans la présence d'un intervenant, mais qui est basé sur les données probantes. Donc, c'est principalement là-dessus que je travaille présentement.
Ah, c'est vraiment intéressant. Et aussi, j'ai vu que tu avais coordonné la création du guide de pratique clinique canadien pour la réadaptation aux adultes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral modéré grave. J'ai pas du tout lu cette section-là.
Il y a aucun problème.
Donc, comment c'était de collaborer justement avec plusieurs chercheurs, plusieurs centres de recherche impliqués là-dedans?
En fait, ça a été un des plus beaux projets sur lesquels j'ai travaillé. J'étais coordonnatrice de recherche pour le Québec parce que, dans le fond, c'est un programme qui était développé en collaboration avec l'INES, donc ici au Québec, puis l'ONF, l'Ontario Neurotrauma Foundation, en Ontario. Mm-hmm. J'étais sous la responsabilité, finalement, là, d'une autre coordonnatrice à l'INES, qui est Catherine Truchon. Et je travaillais effectivement avec différents chercheurs du Québec et de l'Ontario. Ça a été une expérience vraiment super positive de mon côté. Un beau travail de collaboration, puis le produit fini, finalement, est en ligne. Ça compte 266 recommandations pour la réadaptation des individus, effectivement, qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral modéré ou grave. Et c'est très porteur. C'est un guide de pratique clinique, finalement, qui est vivant, qui est dit vivant, et qui est encore mis à jour par l'ONF présentement.
Ah, c'est vraiment intéressant. Et je suis curieux, est-ce que tu as, justement, en collaborant avec des chercheurs canadiens, est-ce que tu as vu une différence de, peut-être, de mentalité ou de façon de travailler entre les chercheurs canadiens ou québécois? Je suis tout simplement curieux.
C'est une bonne question. Vu que c'était une de mes premières expériences avec des gens de l'Ontario, avec une telle proximité, si je peux dire, parce qu'on avait plusieurs rencontres sur différents plans, j'ai pas nécessairement un bon comparatif.
L'échantillon est pas assez bon.
Exactement, c'est ça, oui, tout à fait. Sauf qu'en même temps, moi, c'est sûr que ça a été super porteur sur le plan de mon anglais, qui était déjà très bon, mais en même temps, d'avoir plusieurs entrevues ou réunions téléphoniques, ça a beaucoup forgé, finalement.
Surtout avec un langage soutenu et scientifique, là, c'est pas la même game que d'avoir une simple conversation.
Non, tout à fait. Puis c'était mon premier, dans le fond, c'était mon premier projet en lien avec cette clientèle-là. Donc, ça a exigé, finalement, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mais belle équipe. Franchement, je suis très reconnaissante d'avoir pu participer à ça. C'était...
Bon, ben, félicitations encore une fois. Deuxième invité aujourd'hui, on a ici Joël Breton, qui est à la maîtrise en linguistique avec mémoire. Salut, Joël.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va toi aussi?
Oui.
Oui, good. T'as rapporté aussi le prix Leadership social et humanitaire du SPUL. Donc, encore une fois, félicitations.
Merci.
C'est vraiment une belle reconnaissance. Et sur quel sujet tu t'intéresses particulièrement dans ton mémoire?
Je suis encore en train de développer mon projet parce que c'est sûr que je suis à la première session de maîtrise. Je sais que je vais travailler en sémantique puis en lexicologie. Puis plus spécifiquement, en fait, je vais m'intéresser aux représentations qu'on a du temps. Puisque ça a comme conséquence dans nos usages linguistiques. Là. Donc, de façon encore plus précise, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à la ponctualité puis à la façon dont on parle temporellement de la ponctualité dans nos discours au quotidien. Puis je vais essayer de voir si, à travers le temps puis dans les différentes cultures, il y a des différences qui sont apparus dans, justement, là, notre vision de la ponctualité, le retard, l'avance, etc. Fait que pour ce faire, je vais probablement étudier, bon, en russe puis en français, sur une période de 200 ans environ, les usages linguistiques là, liés au temps, donc le retard, l'avance, etc., pour voir si l'accélération qu'on perçoit dans la société a eu un impact sur la façon dont on parle du temps, finalement, puis sur notre rapport au retard, à l'avance.
Là, c'est vraiment intéressant. Donc, le rapport avec le temps va être une étude comparative Québec-Russie.
C'est ça, quelque chose du genre. Là, je vais essayer de me concentrer sur l'interculturel, voir si, justement, bon, est-ce que la culture a un impact sur cette accélération-là qui est perçue, ou est-ce qu'il n'y a pas d'impact vraiment, puis toutes les langues ont vécu un peu le même type d'accélération, si j'en trouve une, finalement.
C'est vraiment intéressant. Ça va être quand même assez interdisciplinaire aussi comme analyse. Oui, c'est très axé sur le langage, mais il y a de l'anthropologie, de la sociologie aussi.
Oui, exact. Bien, moi, je suis quelqu'un qui me suis toujours inspirée de plein de domaines de recherche. Donc, j'aime ça lire en sociologie, en anthropo, en histoire. Donc, c'est sûr que là, j'axe sur des données concrètes en linguistique. J'ai travaillé sur corpus pour aller voir vraiment des productions réelles de des gens. Mais c'est sûr que ça me permet aussi de lire, bon, histoire, socio, puis évidemment en russe aussi, qui est un petit dada là, que j'ai développé avec le bac. Donc, ça me permet vraiment d'aller chercher plein de choses qui m'intéressent là, en même temps.
Ah, vraiment intéressant. Puis aussi, j'ai vu que tu avais agi en tant que coordonnatrice pour la Fondation Amitié Haïti-Lévis.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi cet organisme-là et quel était ton rôle?
Oui, ben en fait, j'ai commencé à m'impliquer pour Amitié Haïti-Lévis en 2013-2014 en tant que stagiaire. Donc, c'est un organisme qui est basé au cégep de Lévis-Lauzon. Puis, en fait, c'est de la coopération internationale avec Haïti. Ça a été fondé par un ancien professeur là, qui travaillait au cégep de Lévis-Lauzon puis qui venait d'une région en Haïti près de Jacmel. Donc, du village de Saint-Antoine de Lavanneau. Puis, pendant plus de 25 ans maintenant, là, chaque année, il y a des étudiants du cégep de Lévis-Lauzon qui vont là-bas faire des projets en collaboration avec les gens sur le terrain. Puis, mon premier stage, bon, j'ai eu la piqûre, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable comme mission. surtout de voir la proximité avec les gens, puis le fait de vraiment réfléchir à une implication internationale, j'ai trouvé que c'était une belle vision du monde, parce que souvent, on pense à l'aide humanitaire, puis c'est plus de l'aide d'urgence, mm-hmm. mais là, c'est vraiment une construction puis une aide qui se fait sur un très long moment, puis c'est vraiment en collaboration avec des gens là-bas. Donc, bref, après, j'ai commencé à m'impliquer plus au niveau des dynamiques de groupe, avec les nouveaux étudiants qui allaient partir, j'ai organisé des activités de financement, tout ça. Puis, bon, après quelques années, évidemment, là, avec le bac, ça a été un peu plus difficile mm-hmm. de m'impliquer autant, mais je continue d'y aller quelques fois par année, faire des conférences, finalement, sur la situation linguistique en Haïti, puis les dynamiques politiques qui en découlent. Donc, finalement, j'applique un peu ce que j'ai appris pendant mon bac, puis dans ce que je continue à faire en recherche pour aider cet organisme-là, là, qui garde une grande place dans mon cœur, finalement. Mais c'est ça. Donc, je continue de m'impliquer le plus possible là, dans la mesure de ce que je peux faire.
Ah, c'est vraiment cool. Ça doit aussi développer des gros liens humains aussi, mm-hmm. vu que, c'est, comme tu disais, c'est du travail à long terme aussi. Mm-hmm. Là. Quel genre d'activité est-ce que vous organisez vraiment pour cet organisme?
Bien, en fait, à chaque année, on a certaines activités de financement qui reviennent. Okay. Donc, on a des activités, disons, on va faire le bar au party des profs du cégep de Lévis-Lauzon. Ça, je peux pas trop en parler. C'est secret professionnel.
Ce qui se passe là, reste là.
Exact. Mais sinon... on organise des levées de fonds, on vend des bûches de Noël, des choses comme ça, pour éventuellement ramasser de l'argent pour aller faire des projets qu'on crée là, en Haïti. Donc, pendant vraiment le moment où je m'impliquais... dans l'élaboration de ces projets-là, on a développé un projet de micro-serre pour faire de l'agriculture miniature en Haïti, donc dans des espèces de... ce qu'ils appellent un bucket là-bas, qui est une espèce de grosse chaudière en plastique. Okay. On faisait des micro-serres là-dedans. Sinon, on a construit des latrines, un poulailler dans la ville pour favoriser, en fait, l'indépendance alimentaire là, du village. Donc... il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a construit une citerne aussi d'eau potable. Puis, ben, après les tremblements de terre, on a contribué à reconstruire des maisons aussi dans le village, parce que c'est un village très rural. Donc, mm-hmm. Il n'y avait pas beaucoup de matériaux. Fait que souvent, on s'arrangeait pour amener des moyens, finalement, pour que les gens puissent tout reconstruire là-bas.
Ah, c'est cool. C'est vraiment des choses concrètes aussi, là, qui impactent la vie au jour le jour. Mm-hmm. Donc, bravo encore une fois, Joël, et merci d'être là.
Merci.
J'ai finalement le troisième invité aujourd'hui. Nous avons Paulin Diatta avec nous. Salut, Paulin.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien, et vous?
Yes, ça va bien, merci. Paulin, tu es à la maîtrise en études internationales, si je ne me trompe
tout
pas.
À fait, ouais,
parfait.
À fait.
J'ai fait de la grosse recherche. Et justement, tu as gagné le prix Leadership social et humanitaire aussi d'Hydro-Québec. Donc, félicitations,
merci.
Paulin.
Merci.
Et sur quel sujet tu t'intéresses lors de tes études au cycle supérieur?
Alors, moi, je suis un passionné de tout ce qui est paix et sécurité. Je vais remercier Hydro-Québec de m'avoir permis vraiment de bénéficier de ces fonds. Mm-hmm. Parce qu'en tant qu'étudiant étranger, j'avoue que ce n'est pas du tout facile. Ouais, je suis à ma première session. Quand on arrive, on rencontre énormément de difficultés. La vie au Canada n'est pas la même en Afrique. Mais bon, moi, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est conflit, mais les conflits en Afrique. Mm-hmm. Parce qu'au préalable, j'ai eu un Master 2 au Sénégal en paix et sécurité. Et aussi, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une organisation qui s'appelle West Africa Network for Peace Building. Qui est une organisation sous-régionale et qui collabore beaucoup avec des organisations interétatiques telles que la CDAO, je ne sais pas si vous connaissez, et l'Union africaine. Alors, ils ont ma structure, WANEP, a mis en place un système d'alerte précoce qui consiste à collecter des données qui menacent à la sécurité humaine afin de parer à l'escalade de la violence. Parce que vous le savez, le conflit ne dégénère pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de tremblement de terre du jour au lendemain. Il y a un ensemble d'éléments qui favorisent à ce tremblement de terre. Il y a un ensemble d'éléments qui favorisent à une déstabilisation d'un régime politique, peut-être parce qu'il est dictatorial, et ainsi de suite. Alors, moi, j'ai été chargé du système d'alerte précoce qui consistait à la collecte et à l'analyse de ces informations. Donc, voilà un peu sur quoi je m'intéresse.
Vraiment.
Mais aujourd'hui, je pense que mon projet va porter spécifiquement sur l'aide au développement. Parce qu'après plus de 40 ans d'indépendance des États africains, l'Afrique continue à tendre la main. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit pas cela peut-être en Asie? Je pense qu'il faudrait revoir, analyser, voir est-ce que réellement l'Afrique a besoin de cette aide au développement parce qu'elle est pauvre ou bien parce qu'on l'appauvrit. Voilà un peu
la théorie de la dépendance.
Oui.
Donc, c'est essayer de développer des données et des indicateurs pour voir est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'aide? Ben, est-ce qu'il y a besoin d'intervention?
Il faudrait qu'on réfléchisse vraiment. L'Afrique a toute une potentialité, des potentialités énormes, mais aujourd'hui, est-ce que l'Afrique en bénéficie réellement? Je ne suis pas sûr. Mm-hmm. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse arriver à pouvoir dégager des résultats sur des analyses pertinentes mm-hmm. afin de vraiment... arrêter de tendre tout le temps la main.
Oui, ouais, je comprends. Et de façon plus concrète aussi, tu as eu une période d'engagement aussi au Sénégal, dans la région de Casamance, je le dis comme il faut, oui.
C'est ça.
Parfait. qu'est-ce qui était plus précisément ton engagement et ta contribution dans cette région?
Alors, Paulin, moi, je suis naturellement activiste. Peut-être j'ai été influencé par plusieurs révolutionnaires africains. Mm-hmm. Vous allez le sentir, je suis très panafricaniste. Des gens comme Thomas Sankara, Lumumba, mm-hmm. mais des artistes aussi sénégalais. Awadi, Didier Awadi, il est très bien connu ici au Canada, surtout à Montréal, qui ont un certain esprit de révolutionnaire, des gens qui sont des porte-voix des plus démunis. La Casamance, c'est là où je viens, une région au sud du Sénégal, qui est coupé du reste du Sénégal par une autre nation, un autre pays, la Gambie. La Gambie qui entre direct à l'intérieur du Sénégal et qui sépare le Sénégal du reste, disons, de la Casamance. Mmh. Et depuis longtemps, les Casamanciens ne parviennent pas à rejoindre le nord parce que c'est une région très enclavée. Mmh. Et aussi, la Casamance a été marquée par un conflit de plus de 30 ans. Donc, ça veut dire qu'avant même que je ne naisse, le conflit était là et il est toujours là. Mmh. Les séquelles du conflit sont toujours là. Les populations ne peuvent pas vaquer à leur occupation, elles ne peuvent pas aller dans les champs. Et puis, c'est une région très riche. C'est le poumon économique du Sénégal. Et les populations ne peuvent pas bénéficier de ces ressources-là. Alors, pour nous, le conflit, il était en certains moments tabou. Les gens ne parlaient pas. Les Casamanciens ne parlaient pas. Mais je pense qu'on est né dans un pays, le Sénégal, qui est dit un pays démocratique où il y a une liberté d'expression, il va falloir que les Casamanciens assument leur responsabilité, leur histoire. Mais moi, je l'ai assumé. Au début, ce n'était pas facile parce que les parents ne voulaient pas que je m'exprime comme ça dans les réseaux sociaux, dans les médias, publiquement parler, interpeller le président sur la situation des populations de la Casamance, de crainte que je ne sois interpellé peut-être même par la justice. Mmh. Je l'ai assumé avec des amis. J'aime bien remercier ces amis qui sont au Sénégal parce que l'engagement de la convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance. Aujourd'hui, je reçois une bourse, mais je pense que ce n'est pas mon mérite à moi seul. C'est le mérite de la convergence, parce qu'on s'est battu non seulement pour la construction du bac au niveau de la Gambie, là où les populations mettaient 14 heures de temps juste pour moins de 1 km, un pont de moins de 1 km. Ils mettent 14 heures où il n'y a même pas d'infrastructure sanitaire, où ils peuvent se reposer tranquillement. Non, il faut juste un pont pour qu'on puisse passer. Mais c'est un contexte vraiment difficile à expliquer. Mm-hmm. Vous n'allez pas le comprendre facilement parce qu'en Gambie, il y avait un dictateur qui s'appelle Yahya Jammé. Alors, la Gambie gagnait énormément d'argent parce que les Sénégalais, quand ils viennent jusqu'au pont et qu'ils ne peuvent pas passer, ils achètent, ils consomment beaucoup de produits gambiens. Ça contribue à leur économie. Et moi, avec mon association, on s'est battu pour la construction de ce bac. Mais il y a aussi un ferry, vous me permettez?
Oui, tout à fait.
Un bateau qui faisait la navette Dakar-Ziguinchor. Et puis, malheureusement, en 2002, il y a eu un naufrage.
Okay.
Nous avons perdu 2000 personnes.
Ouf, c'est énorme.
Vous voyez, 2000 personnes. Et ces 2000 personnes, la majorité viennent de la Casamance. Non seulement nous sommes impactés par la guerre, les gens ne vont plus à leurs occupations, ne gagnent plus dignement leur vie. Mais en plus, un bateau vient arracher des jeunes, la plupart des étudiants qui allaient à Dakar à l'université. Ils ont perdu la vie. Moi, tout ça a vraiment suscité en moi un esprit de révolte. Je me suis dit, s'il faut même que j'aille courpir en prison, je vais le dire. Mmh. Aujourd'hui, le pont a été construit. Quand le pont a été construit, je pense que mon association a été félicité de vive voix par toutes les populations de la Casamance et du Sénégal parce qu'ils étaient vraiment conscients du combat que nous avons mené.
Ouais.
Parce que le pont contribue à l'émergence économique du Sénégal parce que je dis encore, la Casamance c'est le poumon de voilà.
Puis encore là, on parlait d'actions concrètes avec Joël, mais ça, ça en est une autre. Là, je veux dire, on sort de l'isolement, une région complète, on construit un pont et voilà.
Voilà.
Donc c'est vraiment des actions concrètes, c'est très, très inspirant. J'ai des questions... pour qui cible le plus vous trois, merci beaucoup d'être là, Paulin.
Merci,
c'est très inspirant. Et j'ai une question, comment c'est avoir des implications, qu'elles soient scientifiques, humanitaires, sociales ou ben, familiales aussi, on a tous des familles. Comment est-ce que qu'est-ce que le défi de concilier tout ça?
Oh, OK. Le défi de concilier tout ça.
Comment est-ce qu'on fait pour concilier tout ça?
J'ai l'impression que ce type d'implication-là, en fait, pour moi, je m'implique beaucoup au sein de mon centre de recherche. J'ai une implication très proche auprès de la plupart des étudiants que je côtoie au quotidien. Dans le fond, de mon côté, mon implication en recherche date des 10 dernières années.
Mm-hmm.
J'ai acquis beaucoup d'expérience là-dedans. Puis le fait de faire ma maîtrise puis mon doctorat, ça se fait un peu sur le tard, entre guillemets, mais ça fait en sorte que j'ai beaucoup d'échanges qui sont super positifs avec les gens que je côtoie. Puis je dirais que la conciliation va de soi dans la mesure où ça amène tellement d'apprentissage de part et d'autre que c'est quelque chose qui se fait naturellement.
On s'en rend pas compte.
Non, effectivement. Fait que ça passe par du mentorat ou par des échanges, le fait de regarder finalement les projets des autres puis de s'impliquer pour, par exemple, revoir leurs affiches, les demandes de bourse, c'est quelque chose qui ramène ultimement beaucoup dans notre propre, ben en tout cas dans ma propre formation. Donc voilà, c'est pas, je pense que c'est pas quelque chose qui est chargé négativement. Au contraire, c'est pas un fardeau. C'est quelque chose qui amène beaucoup de part et d'autre.
Mm-hmm. Ben, je suis d'accord avec Pascal. En fait, moi j'ai toujours vu ça comme une nécessité dans ma vie. Mm-hmm. J'ai l'impression que juste être à l'école, ce serait pas suffisant. Je suis peut-être un genre d'hyperactivité. Mm-hmm. J'ai besoin de tout le temps avoir un horaire super chargé, on dirait, pour sentir que je suis en contrôle puis que je m'implique autant que je voudrais. Là, depuis quelques années, je m'implique auprès de la formation Saveur, qui est une formation bon, pour des futurs animateurs de terrain de jeu. Puis maintenant, j'en suis directrice. Là, puis c'est ma passion, finalement, les camps de jour. Mm-hmm. J'ai fait ça pendant des années. Puis en même temps que l'implication humanitaire, on dirait que j'ai l'implication plus locale dans ma passion. Puis la maîtrise, on dirait que ça fait une balance, finalement, dans la vie. On parle d'avoir un mode de vie équilibré.
Ouais, ouais.
Puis bon, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants que c'est un peu difficile, des fois.
Mm-hmm.
Je pense que l'implication comme ça, ça permet de garder justement un équilibre puis de pas juste être dans ses recherches puis se perdre un peu là-dedans. Je pense que ça nous permet de faire un bon contrepoids justement à la passion scientifique là, qui est d'un côté.
Mm-hmm. Oui. Puis est-ce que aussi, moi je me demandais aussi comment est-ce que vous êtes en venu à devenir chercheur ou chercheur en devenir? Est-ce que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que on s'en rend pas compte une fois qu'on l'est. est-ce que mon hypothèse est bonne là-dessus?
Je pense que je peux prendre le micro là-dessus. Moi, ça me fascine à chaque fois. En fait, souvent, on va rechercher des gens, des professionnels de recherche pour différents projets, des chercheurs avec qui je suis impliquée. Puis c'est difficile de cerner qui finit par aboutir en recherche. Mmh. Finalement, c'est pas un chemin qui est tout tracé. Puis de mon côté, ça s'est fait totalement par hasard. J'ai toujours eu un intérêt pour la recherche. J'ai été auxiliaire quand j'étais au baccalauréat en travail social à Montréal. Mais par la suite, dans le fond, ça s'est imposé par un concours de circonstances, des super belles rencontres qui font en sorte que, au départ, j'étais supposée m'impliquer auprès d'une chercheure pour quelques semaines, puis j'ai été avec elle, coordonnatrice de recherche, pendant 5 ans. Mm-hmm. Donc, c'est un peu des beaux hasards de mon côté, en tout cas, une série d'aptitudes également qui font en sorte que ça colle bien, puis je vois pas ce que je ferais d'autre, finalement. Mm-hmm.
Oui. Moi, je pense que l'appétit vient en mangeant.
C'est vrai.
Dans les lectures, c'est dans les rencontres de gens qui sont très pointus sur certaines thématiques qui vous amènent à vouloir aussi aller au-delà de ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait. Moi, je pense qu'il y a énormément de passion dans la recherche parce qu'on ne finira jamais de trouver. Mm-hmm. Ben, ça va continuer jusqu'au jour où on va céder le relais à une autre personne.
Mm-hmm. Et aussi, tu sais, on a beaucoup discuté de santé mentale aussi cet automne avec les résultats de l'enquête santé psychologique de l'UEC. Justement, tu sais, est-ce que vous considérez que le monde de la recherche doit faire une introspection sur elle-même pour vérifier est-ce que notre méthode de fonctionnement est peut-être trop demandant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez ce diagnostic-là, entre guillemets?
Bien, clairement, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement la recherche en soi qui a une pression, parce que je pense que là, c'est la personne elle-même, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, qui décide du rythme qu'il impose à sa vie, finalement. Mais le problème, souvent, c'est la pression de la publication, puis des choses, des fois, qui peuvent apporter un stress de plus qui n'est pas nécessaire, finalement, puis qui n'est pas non plus, j'ai l'impression, fructueux en science. Là. Si, par exemple, on sent qu'il y a une pression à publier, bien, peut-être que la recherche ou l'analyse ne va pas être faite avec autant de profondeur qu'on aurait pu le faire si on ne s'était pas senti obligé, finalement, de publier. Donc, je pense que parfois, bon, ça dépend tout le temps du directeur, ça dépend du groupe de recherche, etc., mais je pense que parfois, il peut y avoir une pression qui vient de plus haut puis qui dépasse un peu l'étudiant-chercheur ou le chercheur professionnel, puis ça fait en sorte que, ben, il y a une anxiété qui peut venir avec la recherche, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être appliqué à tout le milieu universitaire, là. C'est pour ça que, bon, les résultats de l'enquête sur la santé mentale étaient vraiment pertinents, puis finalement parlaient beaucoup.
Je suis d'accord avec ça, puis en même temps, dans le fond, je pense que oui, le domaine de la recherche à se remettre en question, mais j'inviterais les étudiants aussi à beaucoup s'informer, communiquer avec leur futur directeur, directrice de recherche. Ça se choisit, hein, cette équipe-là.
Il y a
ça
beaucoup de gens qui ne savent pas, ça, qu'ils ont un pouvoir, pas un pouvoir, mais qu'ils peuvent, je veux dire, de donner leurs attentes aussi envers la direction de recherche et leur équipe de recherche.
Oui, puis dire, bien, peut-être que ça vaut la peine de rencontrer différentes personnes également, puis on voit avec qui ça colle, tu sais, voilà.
C'est vrai, faire du magasinage, c'est tout le temps bon. Ouais. Et donc, je voulais vous remercier vraiment d'avoir été là. C'est déjà, ça passe vraiment vite, mais c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, Pascale-Marie Deschamps, merci beaucoup.
Un gros merci.
Joël Breton, merci.
Merci.
Et Paulin Diatter, merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai quelques trucs à plugger, évidemment. On n'arrête jamais. Demain, sur la chaîne YouTube, Cher Public Allié, on sort la conférence pour en savoir plus, les changements climatiques. C'était la conférence de l'Université Laval qui a eu lieu cet automne. C'est pas une l'occasion de l'écouter. Ça va être sur YouTube demain. Regardez ça. Et sinon, j'en profite également, c'est notre dernière émission pour l'année 2019. Je souhaite un joyeux temps des fêtes à tous les membres de l'Allié et aux gens ici présents à l'émission. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Questions de savoir et on se revoit au retour des fêtes.
Merci.
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 Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sport au plus vient d'ouvrir ses portes à Sainte-Foy. Que ce soit pour la location ou l'achat d'équipements de sport neuf ou usagé, Sport au plus est le meilleur endroit pour économiser. Profitez de rabais en magasin en nous rapportant vos articles de sport usagés en échange de crédits en magasin. Avis aux étudiants, nous avons un cadeau gratuit pour vous. Sport au plus Sainte-Foy, 2323 Galvani, coin Néré Tremblay, à quelques minutes de la pyramide.
Faites toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Le
l'épée de Damoclès plane au-dessus de ma tête.
Écoute locale avec Chiz 94.3.